L'émission suivante est également publiée sur notre blog Un héros dans le net. Rendez-vous dans la section commentaires pour joindre la discussion.
Bonjour chers amis et bienvenue à cette nouvelle émission de Parole à propos. Alors mon nom est Jacques Pelletier, je suis le pasteur de l'Église réformée baptiste de la Capitale et je suis en compagnie, grâce à la technologie, avec le pasteur Pascal Deneau de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Bonjour Pascal.
Bonjour Jacques.
Nous avons, Pascal, j'aimerais entre ensemble qu'on puisse discuter pendant les quelques minutes qui suivent sur la question de l'Écriture sainte, la Bible, hein, et on retrouve dans l'Évangile de Matthieu cette phrase du Seigneur Jésus-Christ, ces quelques mots, hein, où il nous dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». C'est Matthieu 4:4, une parole vraiment importante, hein, qui nous dit que l'homme a besoin d'une nourriture spirituelle, cette nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Donc, je sais, Pascal, que vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup les Écritures saintes, la Bible.
Qui vous l'a dit?
Ah, ça transpire, hein. Je vous connais bien et ça transpire bien sûr de votre vécu, mais aussi de votre prédication, de votre enseignement. Et donc, Pascal, ensemble, j'aimerais qu'on puisse discuter dans un premier temps de qu'est-ce que l'Écriture sainte, qu'est-ce que la Bible. On pourrait dire aussi qu'est-ce que la parole de Dieu, parce que pour nous, parole de Dieu et Bible, c'est la même chose. Mais alors, je vous cède la parole pour débuter la discussion sur qu'est-ce que l'Écriture sainte, Pascal.
Oui, je trouve que c'est un bon point ou une nuance importante que vous apportez. Qu'est-ce que la Bible ou qu'est-ce que la parole de Dieu? Parce que certains croyants font une distinction entre les deux. Il y a la Bible d'un côté qui est donc un livre, qui a des écritures dedans, mais la parole de Dieu, selon certaines personnes, est plus large que cela. Elle inclurait d'autres révélations que seulement la Bible elle-même. Je me souviens que même quelqu'un me disait, lorsque je m'adressais à des gens d'une autre confession, que je parlais de la parole de Dieu, il dit « Es-tu certain qu'ils comprennent que tu désignes la Bible et que tu parles pas de révélations qu'on pourrait recevoir directes du Saint-Esprit? » Et donc, c'est important donc de définir qu'est-ce qu'on entend par « parole de Dieu ». Et dans notre propre tradition, la tradition réformée, donc la parole de Dieu, c'est l'Écriture sainte, c'est la Bible. Et donc la Bible, c'est quoi? Bien, ça, on le dit, c'est la parole de Dieu. C'est pas seulement un livre humain. Hein, c'est un livre qui a une origine divine. Ce qui fait de la Bible un livre unique à part, c'est ce caractère divin. C'est qu'elle se présente comme une révélation. Elle se présente pas seulement comme un livre quelconque, mais comme une parole qui vient d'en haut, Dieu a parlé. On croit pas que la Bible est tombée du ciel, on croit pas que Dieu a dicté mot à mot à des hommes ce qu'ils devaient écrire, mais peut-être je pourrais lire pour le bénéfice des auditeurs ce qu'on voit dans le premier paragraphe de la confession de foi dite de 1689, qui explique un petit peu ce qu'est la parole de Dieu. Donc ça nous dit, donc je ne vais pas lire le paragraphe en entier, mais que, laissez-moi voir où débuter la lecture, il a plu, c'est pourquoi il a plu à Dieu de se révéler à plusieurs reprises et de plusieurs manières et de faire connaître sa volonté à son Église. Donc Dieu a parlé, il s'est révélé de plusieurs façons, on voit qu'il a entré dans en relation avec les êtres humains, qui leur a fait vivre des expériences, il leur a donné des songes, il leur a donné des révélations directes, des visions, et on lit ensuite le reste du paragraphe qui va comme suit. « Ensuite, pour que la vérité soit préservée et mieux propagée, et pour que l'Église soit d'autant plus sûrement établie et affermie en face de la corruption de la chair, de la malice de Satan et du monde, il a plu au Seigneur de la mettre tout entière par écrit. Pour cela, l'Écriture sainte est indispensable, Dieu ayant cessé de manifester sa volonté à son peuple comme il l'avait fait jusque-là. » Alors, voilà pour, je sais pas si on voulait commenter un petit peu sur le sens de ce que ce paragraphe veut dire, que Dieu a manifesté sa volonté d'une certaine manière à une époque et qu'il a cessé cette façon, mais qu'il a préservé sa parole sur un support écrit.
Oui, je pense que c'est un point vraiment important, Pascal. Peut-être juste revenir sur la question parce que vous avez fait référence au fait que, bien sûr, lorsque nous, en fait, l'Écriture elle-même nous enseigne cela, là, que lorsque nous parlons, lorsque nous disons parole de Dieu, nous voulons dire bien sûr les saintes Écritures, et cela n'inclut pas ce qu'on va appeler la tradition en tant que telle, même si toute tradition dans l'Église est loin d'être mauvaise, au contraire. Mais aussi, vous avez fait référence au fait de même ceux qui croient que en tant que tel que la Bible est parole de Dieu, ou du moins ils reconnaissent l'autorité à l'Écriture sainte. Il y a aussi certains qui ont pensé que en fait que la Bible contient la parole de Dieu, comme si tout ce qui est dans la Bible n'est pas nécessairement parole de Dieu automatiquement. Alors nous disons, et c'est vraiment ce que l'Écriture nous enseigne du début jusqu'à la fin, du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, que chaque ligne, chaque mot de l'Écriture sainte est la parole de Dieu. Okay? Et que ce n'est pas laissé justement au jugement des êtres humains de décider quel texte, quelle phrase, quel mot est inspiré, hein, ou non, et qu'est-ce qui serait justement le fruit de que ce soit de la simple imagination des hommes ou même tout simplement là d'une conception. Comment, circonstanciel, n'est-ce pas, mais qui ne serait plus acceptable aujourd'hui. En tant que tel, nous croyons vraiment que toute l'Écriture est parole de Dieu. Je suis en train d'oublier la question que m'avait posée. Ah ouais, la question de pourquoi est-ce que le tout est arrivé, là, enfin, a été placé sur un support écrit, hein, eh
Ouais,
bien,
ben
effectivement.
c'est que la Bible, dans le fond, s'est écrite progressivement, et que la parole de Dieu est venue pas seulement par l'écrit.
Non, bien sûr, on voit dans les Écritures saintes, avant même que le livre de la Genèse ait été écrit, bien sûr que Dieu déjà s'était manifesté, Dieu déjà s'était révélé, Dieu avait déjà parlé. Mais comme ça dit bien dans notre confession de foi, et c'est exactement ce qu'on voit dans les Saintes Écritures, le processus, enfin, le plan de Dieu était que cette révélation, hein, qui s'est faite de façon progressive dans l'histoire, puisse atterrir sur un support écrit pour pouvoir être conservé, justement pour les générations futures. Et ça, c'est vraiment un phénomène qu'on voit tout au long de l'Ancien Testament. Hein? Et les Juifs l'ont bien compris puisqu'ils ont justement collecté les livres qu'ils considéraient comme inspirés de Dieu. Et le même phénomène se produit dans le Nouveau Testament. On voit que très rapidement, justement, que même les apôtres font référence à cela quelques reprises, mais on voit bien qu'on sait que le souffle prophétique est à l'œuvre au sein de la jeune Église, parce que bon, il y avait bien sûr les apôtres qui recevaient des révélations particulières. Le Seigneur Jésus, bien sûr, qui est la parole elle-même qui s'est révélé, n'est-ce pas, qui a révélé le Père, les apôtres, il y avait aussi des prophètes, bien sûr. Eh bien, on voit que tout cela atterrit sur un support écrit. Et déjà à la fin du premier siècle, les chrétiens, l'Église réalise que Dieu ne parle plus nécessairement par la bouche des prophètes comme il l'a fait pendant plusieurs décennies, et on ressent le besoin presque immédiat, hein. En fait, je pense que le processus avait débuté déjà à l'époque apostolique, justement, non seulement de préserver les livres qu'on avait qui venaient des apôtres ou des collaborateurs des apôtres, mais aussi d'investiguer, hein, au sein de toute l'Église, quels sont les livres justement qui sont venus des apôtres et tout cela, et dans lequel on reconnaît justement l'empreinte divine, l'autorité divine, afin de justement de les assembler pour avoir cette révélation que Dieu a donnée aux hommes une fois pour toutes.
Donc
C'est
la Bible est une révélation. Moi, je me souviens, on employait cette expression quand j'étudiais en théologie. C'est une révélation historico-rédemptive. Donc c'est autrement dit, il y a l'histoire de la rédemption dès la chute de l'homme. Il y a une histoire qui prend place. C'est une histoire dans laquelle Dieu est le protagoniste et l'acteur principal. Et cette histoire, c'est celle du rachat de l'humanité. Comment est-ce que Dieu va racheter les hommes, et donc Dieu, dès le début, établit une alliance avec les hommes, et on voit qu'il va y avoir plusieurs alliances qui vont ultimement mener à la nouvelle alliance, qui est l'alliance de rédemption. Et donc, la Bible, c'est l'histoire de cette rédemption, c'est comment progressivement Dieu a révélé ce salut, et comment ultimement il a révélé le Christ, ou comment Dieu est révélé dans le Christ.
Effectivement, Pascal, et je pense que vous venez toucher un point vraiment important parce que les gens vont se poser justement la question, effectivement, de bon, mais de quoi est-ce que la Bible parle, hein? Et là, on va entendre toutes sortes d'opinions, et on voit aussi, il y a aussi des gens, bien sûr, qui nous arrivent avec des soi-disant clés d'interprétation des Écritures, et parfois, bien sûr, ils nous arrivent avec des théories complètement farfelues, hein? Il y a des gens même qui cherchent des nombres dans la Bible, il y a des soi-disant codes secrets, mais il y a aussi d'autres qui vont nous dire, bon, comment dirais-je, le fil d'Ariane, hein, pour comprendre les Écritures, c'est la question de la justice, hein, c'est aime ton prochain comme toi-même, des choses comme cela. Le cœur de l'Écriture, c'est justement le salut, hein, c'est on peut dire l'Évangile. Bien sûr, l'Écriture nous parle de la raison pour laquelle nous avons besoin d'un salut, pourquoi l'humanité a besoin d'un salut, mais au cœur de l'Écriture même, la clé, hein, qui nous permet d'interpréter les Écritures saintes, l'Ancien et le Nouveau Testament, eh bien, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui s'est incarné pour le salut de tous ceux qui croient en lui. Et l'Ancien Testament, justement, annonce la venue du Seigneur Jésus-Christ par toutes sortes d'images, d'histoires, de prophéties. Et donc, Dieu annonce la venue du Sauveur et son œuvre. Et il nous dit aussi constamment pourquoi est-ce que les hommes ont besoin d'un Sauveur. Les évangiles, bien sûr, c'est l'apparition du Sauveur, hein, c'est le Fils de Dieu lui-même qui est parmi les hommes et donc qui vient, on peut dire même s'auto-révéler et révéler Dieu dans avec une plus grande lumière. Les épîtres, l'explication de la venue du Fils de Dieu, de son œuvre. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Pourquoi est-ce qu'il a paru? Pourquoi est-ce qu'il est mort sur une croix? Pourquoi est-ce qu'il est ressuscité? Pourquoi est-ce qu'il est monté au ciel? Etc., etc. Et l'Apocalypse, ben, c'est le livre qui chante le triomphe du Christ et de tous ceux qui croient en lui. Peut-être qu'on a passé rapidement, Pasteur Pascal, sur la question, qu'est-ce que l'Écriture? Je viens de faire référence à l'Ancien et le Nouveau Testament. OK. Ouais. Peut-être juste expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'on veut dire par l'Ancien et Nouveau Testament, et une question peut-être que certaines personnes vont se poser, c'est quels sont les livres qui forment ce qu'on appelle nous le canon, hein, c'est-à-dire quels sont les livres que nous considérons comme inspirés, parce qu'on sait que dans la tradition chrétienne, là, au niveau universel, il n'y a pas eu d'entente là-dessus.
Oui, ça a été une controverse qui a perduré tout au long de l'histoire de l'Église, qui n'a pas nécessairement été constante là, qui a fait des apparitions à certains moments donnés. Mais je pense que la question du canon entre surtout d'abord avec la composition du canon de l'Ancien Testament, qui était complet à l'époque du Christ, à l'époque des apôtres. Pour nous qui sommes chrétiens, généralement, c'est parce qu'on se soumet à l'autorité de Christ et de ses apôtres qu'il nous est assez facile de reconnaître l'autorité de l'Ancien Testament parce que et la canonicité de tous les livres qui en font partie, parce que le Christ a reconnu, a approuvé explicitement, implicitement dans ses discours en citant les Écritures. Donc il a approuvé ce qui était le canon de l'époque. Les apôtres également, ils ont cité les livres qui en faisaient partie comme étant la parole de Dieu. Alors si on croit que Jésus-Christ est véritablement celui que les Écritures disent être, donc le Fils de Dieu, et qu'on se soumet à son autorité et son enseignement nous force de reconnaître que ce que les Juifs reconnaissaient comme l'Écriture de leur époque, donc tous les livres qui forment l'Ancien Testament dans le canon dit protestant, donc on reconnaît ce même canon. Alors, c'est peut-être important d'expliquer ce que le mot canon veut dire. Ça vient du grec canon, qui veut dire la règle.
C'est pas la compagnie, ça, là.
La compagnie?
qui faisait des appareils photo.
Non,
ou Canon, des photocopieurs.
Non, je l'avais. Qui en fait toujours. Non, c'est
ou
pas
en fait toujours.
Pas toujours c'est pas exactement la même chose, mais donc la règle, qu'est-ce qui est, par quoi est-ce que l'autorité de Dieu se trouve à l'intérieur de quelle norme, quel est le standard? Et bon, parfois on parle de gens qui ont été canonisés. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est que leurs écrits, leur enseignement est mis au rang de la parole de Dieu. On les ajoute à la règle, on les ajoute à l'autorité de la foi. Alors que pour nous qui sommes réformés, on croit que la seule règle de foi, c'est l'Écriture sainte et c'est le canon qui, d'abord celui de l'Ancien Testament, qui a été approuvé par le Christ et les apôtres. Et pour ce qui est du Nouveau Testament, bien ce sont les livres qui avaient l'autorité apostolique.
Ça, c'est très intéressant ce que vous dites, Pasteur Pascal, parce que peut-être juste expliquer un peu plus pour nos auditeurs, lorsque vous dites que le canon reconnu par le Christ, le canon des Écritures de l'Ancien Testament reconnu par le Christ et les apôtres, c'est le canon qu'on appelle hébraïque. C'est-à-dire qu'il existait une version des Écritures au premier siècle qui avait été traduite en grec, dans laquelle avaient été inclus certains livres. Et on appelait ça, on va parler ici peut-être de canon plus large, mais jamais le Seigneur Jésus ni les apôtres ne font référence à ce canon-là. Ça a été l'un des grands débats à la réforme protestante, et les protestants, on n'a pas le temps de toucher à ça aujourd'hui, bien sûr, mais bien sûr, se sont reposés sur ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, sur le fait que le Seigneur Jésus et ses disciples n'ont jamais cité ces fameux livres là, qu'on appelle les apocryphes, et pour plusieurs raisons d'ailleurs, et donc ils ont été rejetés et il faut savoir aussi que même un homme comme Jérôme, qui au 4e siècle, je ne m'abuse, qui a traduit les Écritures dans la version latine, ne reconnaissait pas l'autorité de ces livres-là, ni même, à ce que je sache, Athanase, hein, qui nous a donné une liste des livres connus à son époque comme canoniques. Je me tâche aussi, si vous permettez, Pascal, puisqu'on est vraiment dans le sujet, toucher la question bien aussi du canon du Nouveau Testament, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le canon que nous possédons aujourd'hui, hein, les livres du Nouveau Testament, c'est un canon qui a été choisi par l'Église elle-même et même qui a été retouché jusqu'à un certain point, hein, qu'on aurait donc écarté certains livres parce que un peu compromettants, parce que n'entrant pas dans le schéma de pensée.
Ça serait le triomphe d'un certain. Ça serait le triomphe d'une forme d'un christianisme particulier au détriment de d'autres.
Effectivement.
Un petit peu comme Dan Brown là, le suggère dans
effectivement, dans sa nouvelle. Et c'est une idée qui est vraiment répandue, sauf que elle ne tient pas la route, parce que même on sait que même dans les premiers siècles et même à l'époque de la Réforme et même au sein non seulement du catholicisme mais du protestantisme, le canon des Écritures même du Nouveau Testament est un canon qui bien souvent accuse même l'Église établie, hein, même chez les protestants, et donc c'est pour moi c'est juste l'argument lui-même ne tient pas la route, mais on sait, hein, hors de tout doute, que déjà il y avait des livres reconnus à l'époque apostolique comme étant inspirés dans des livres qui font partie du canon du Nouveau Testament.
Oui, il y avait des collections de lettres, même les épîtres de Paul avaient un caractère, une autorité qui était universellement reconnue au sein de l'Église.
Oui, l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, fait référence justement aux écrits de Paul, qu'il met justement à égalité avec les écrits de l'Ancien Testament. Mais on sait qu'à la fin du deuxième siècle, hors de tout doute, on a ça notamment par les écrits d'Irénée, que la presque totalité du Nouveau Testament, et ça comprend notamment les quatre évangiles, les épîtres de Paul et tout cela, la presque totalité était reconnue universellement par toute l'Église. Hein, il y avait quelques livres sur lesquels on pouvait se poser quelques questions, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que les livres n'étaient pas inspirés, mais pour X raisons, il y a des gens qui ont émis quelques réserves en tant que telles. Et c'est important d'ajouter qu'en fait, même s'il y a un concile au 5e siècle qui nous donne à la fin du concile, les travaux ont permis d'établir une liste des livres du Nouveau Testament. En fait, ce n'est pas un concile universel. Et donc, il n'a jamais eu autorité sur l'ensemble de l'Église. En fait, ce concile-là n'a fait que tout simplement énoncer ce que toute l'Église croyait.
Quel bon, concile?
Pardon?
Quel concile?
J'ai oublié le nom ici, il okay, faudrait que j'aille voir dans mes livres, mais c'est au 5e siècle, si je m'abuse. Et à ce concile-là, tout ce qu'on a fait, c'est tout simplement donner la liste des livres du Nouveau Testament qui étaient reconnus par ouais. tout l'ensemble de l'Église.
Ouais, puis,
alors
puis
ça,
déjà,
c'est intéressant. Il n'y a pas eu besoin même d'un concile universel, qu'une autorité suprême impose les livres à l'Église. Hein, les livres du Nouveau Testament, l'Église les a reconnus comme tels.
Oui, la Bible s'est imposée par elle-même. Et déjà, la controverse avec Marcion, qui est bien avant le concile de Nicée et des grands conciles là, qui ont un peu entériné le canon qui était déjà reconnu officiellement dans l'Église, on voit que Marcion, qui était donc un personnage, un hérétique, là, qui va être condamné comme hérétique, rejetait le canon de l'Église, l'Église universelle de son époque, rejetait l'Ancien Testament et triait le Nouveau Testament. Ça veut dire qu'il y avait déjà une collection de livres qui était reconnue au 1er siècle, là.
Et ça, c'est très important parce qu'il y a des spécialistes aujourd'hui qui nient cela et même qui vont dire, bon, les chrétiens citaient l'Ancien Testament comme étant l'Écriture, mais jamais les écrits des apôtres n'étaient qualifiés d'Écriture, mais plutôt de tradition. Mais cela est faux, c'est pas ainsi. Nous savons, hors de tout doute, que les écrits des apôtres étaient reconnus comme Écriture.
Mm-hmm. Peut-être que ce serait bien aussi d'expliquer, maintenant qu'on a parlé du canon, et puis qu'on tente, dans le fond, de répondre à la question « qu'est-ce que la Bible? » Donc, on l'a présenté comme une révélation qui est un caractère divin, qui aussi, il faut le dire, est pleinement humaine en même temps, un peu comme le Christ qui a la nature humaine et divine en entier, sans confusion, mais qui demeure unie. Donc, la Bible, elle est vraiment humaine. On peut l'étudier sur le plan des sciences humaines, c'est-à-dire l'archéologie, la grammaire, les styles littéraires. L'histoire, en même temps qu'elle est divine, elle a un message qui va au-delà de ce que les hommes ont voulu dire, ou ont même compris eux-mêmes, parce que c'est Dieu qui nous a parlé, c'est Dieu qui est l'auteur ultime. Donc, on a souligné ce point dans le « qu'est-ce que la Bible ?». On a parlé beaucoup du canon. Je pense que ça serait bien peut-être aussi d'expliquer la différence entre les deux testaments, qu'est-ce qui fait que la Bible est divisée en deux comme ça, qu'il y a l'Ancien Testament, qu'il y a le Nouveau Testament?
Oui, ben j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, l'Ancien Testament annonce la venue du Christ, annonce le salut préparé par Dieu pour son peuple. Le Nouveau Testament nous le présente. C'est vraiment le salut qui s'est manifesté en la personne du Christ et qui a été accompli une fois pour toutes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, Pascal?
Je pense qu'on peut, sans rien ajouter, mais le redire d'une façon différente. C'est Augustin qui disait dans l'Ancien Testament, le Nouveau est latent, dans le Nouveau, l'Ancien est patent. Donc il y a vraiment une interaction entre les deux testaments et qui s'explique à cause de la personne du Christ, parce que, et vous l'avez dit aussi tantôt, ce qui est central dans l'Écriture, c'est le Christ. La Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, elle est christocentrique, c'est-à-dire qu'elle est centrée sur le Christ, et Jésus lui-même à plusieurs reprises, affirme que toute l'Écriture parle de lui. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire que l'Ancien Testament, bien avant l'incarnation du Fils de Dieu, bien avant que Jésus, historiquement, soit manifesté au monde, parle de lui et le révèle et nous dit ce qu'il est, parce que, bon, on sait pourquoi il est central, il est essentiel pour nous de le connaître, pourquoi il est la figure centrale de la révélation, c'est parce que c'est au travers de lui que les hommes connaissent Dieu, ils peuvent recevoir le don du salut et la vie éternelle. Mais donc, ce qui explique la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est le Christ. Tout l'Ancien Testament, c'est avant le Christ. Et donc, ça se présente comme des promesses qui se rapportent à lui et qui auront leur accomplissement lorsque le Christ, le Messie, viendra. Et le Nouveau Testament, donc, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation des promesses. Alors, c'est le Christ est au centre de ces deux testaments comme étant la promesse et l'accomplissement.
Merci, Pascal. Ben écoutez, le temps passe tellement rapidement, encore une fois, hein, j'ai l'habitude de dire ça à toutes les fins de nos émissions, à la fin de toutes nos émissions, mais c'est une réalité. Hein. Peut-être j'aimerais terminer, Pascal, avec en citant l'évangile de Jean, chapitre 5, les versets 39 à 40, où le Seigneur Jésus, encore une fois, ici, nous présente, hein, nous donne la clé d'interprétation de toute l'Écriture, comme vous venez vous-même si bien de le dire, à savoir que c'est lui-même qui en est la clé, parce qu'il reproche dans ce texte-là, justement, au docteur, au théologien, au docteur de l'Écriture de son époque, de la sonder, cette Écriture-là, de la lire, d'en parler constamment, d'en débattre, hein, mais sans arriver à une pleine compréhension de celle-ci, parce qu'il passait à côté du message central, justement. Et voici ce qu'il leur dit. Donc, Jean, chapitre 5, verset 39 à 40. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Très intéressant comme texte, bien sûr, et peut-être qu'on pourrait, j'aimerais justement m'adresser à nos auditeurs, nos auditrices, peut-être les gens qui connaissent plus ou moins les Écritures saintes, nous ne pouvons que vous encourager à ouvrir la parole de Dieu. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, pour une première fois, d'aller dans l'évangile de Jean, hein, qui est un évangile extraordinaire, et de prendre le temps de lire ces paroles qui sont des paroles de vie, qui sont les paroles de Dieu lui-même. Mais encore une fois, ouvrir la parole de Dieu, non pas pour chercher là, toutes sortes de systèmes bizarres, là, de découvrir la fin du monde ou des recettes pour avoir la prospérité, etc., etc., pour que mon voisin m'aime un petit peu plus qu'avant. Hein, c'est vraiment le message central des Écritures, c'est la personne du Christ. C'est l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ pour les pécheurs que nous sommes. Et donc, nous devons sonder les Écritures, nous devons étudier la parole de Dieu, mais en ayant en tête que, justement, le cœur de celle-ci, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et on ne peut que souhaiter à tous ceux qui nous écoutent de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec ça, Pascal?
Tout à fait. Et c'est intéressant, vous faites mention de l'évangile de Jean, que Jean commence son évangile en disant « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Et un peu plus loin, dans le même chapitre, il dit « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et nous avons contemplé sa gloire. » J'y vais de mémoire là. Le Christ est la parole. La parole, c'est finalement la révélation de Dieu. Sans une révélation, qu'est-ce qu'on saurait sur Dieu? Si Dieu ne se révèle pas, si Dieu ne parle pas, on ne sait rien de lui. Mais Dieu a parlé, c'est la bonne nouvelle. Dieu a voulu se faire connaître. Et cette parole, eh bien, c'est le Fils, c'est la deuxième personne de la Trinité qui en fait le révélateur de Dieu, qui est celui qui sort du sein du Père, qui en est l'image parfaite et qui le manifeste à toutes les autres créatures. Et cette parole s'est incarnée, elle est devenue un homme. Dieu s'est fait homme, la parole est venue parmi nous, elle a habité pour que Dieu soit connu par ses créatures. Et donc, pour connaître cette parole, il faut sonder les Écritures. Lire les Écritures, c'est lire le cœur du Christ, c'est lire, c'est écouter Dieu lui-même. Elle est sortie de lui, cette parole. Théopneustos, on pourra en parler dans une émission ultérieure quand on parlera de l'inspiration divine. Mais je pense qu'on s'en est somme toute pas si mal tiré pour expliquer qu'est-ce que la Bible.
Effectivement. Et c'est Jérôme qui disait connaître les Écritures, c'est connaître le Christ. Écoutez, Pasteur Pascal, c'est tout le temps que nous avons. Donc, nous allons devoir malheureusement nous quitter, hein, mais ainsi que nos auditeurs. Mais ce n'est que partie remise, parce que bien sûr, on se dit au revoir et à la prochaine pour une nouvelle rencontre sur les ondes de ces fois pour une autre émission de Parole à propos. Merci beaucoup, Pasteur Pascal, pour nous avoir consacré ce temps. Et donc, à la prochaine.